Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver. Notre invité cette semaine est un habitué de ce micro, puisqu'il anime aussi une émission radiophonique, Réflexion d'un psy. Vous aurez compris qu'il est psychologue, mais son parcours de vie au gré du temps, et pourrions-nous dire son approche toute personnelle pour confronter les problèmes, en font un personnage, pour ne pas dire une personnalité très attachante. Avec nous, Pierre Faubert.
Bonjour Armand.
Très heureux de vous retrouver. Vous avez passé une bonne semaine.
Absolument. Ça a été actif, mais très, très bien.
On a terminé la semaine dernière en parlant de l'amour, qui était presque un médicament, tiens. Mais oui. L'amour ne guérit pas tout.
Non, c'est justement, c'est qu'il y a parfois des failles que nous avons, des maladies mentales, surtout lorsqu'on est dans ce qu'on appelle les psychoses. Et donc, à ce moment-là, ça peut être très, très difficile de libérer l'amour, finalement. On peut aimer des personnes, par exemple, je pense aux parents qui peuvent aimer leur enfant qui est schizophrène. C'est toujours facile pour l'enfant ou même l'adulte qui est schizophrène de pouvoir aimer.
Ou un enfant qui a mal tourné, par exemple.
Oui.
Ou un conjoint, ou une conjointe.
C'est ça, quelqu'un qui est violent. Et,
oui.
Et on a beau vouloir les aimer, ces gens-là, et de les aimer, effectivement, mais y a une épaisseur tellement grande, qui fait que l'amour ne semble pas pouvoir les rejoindre, ces gens-là. Mais quoique, vous savez, ça dépend de l'histoire de chacun, et je pense que lorsqu'une personne a subi la violence, elle répond avec la violence.
Mais de votre expérience de psychologue, on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui consultent, que les gens sont... J'allais dire, je ne sais pas si l'expression est correcte, on parle souvent de bien-être, j'allais dire dans un mal-être. Et que c'est plus présent de nos jours que ce l'était autrefois. Est-ce un symptôme d'une société qui est mal articulée?
Oh, vous savez...
Y a-t-il moins d'amour?
Oui. Je pense qu'il y a...
Ce ne sont pas des réponses faciles,
non,
bien sûr.
Il y a peut-être plus d'égoïsme, Armand, dans la mesure où chacun pour soi et tout a un prix. Et puis, je le vois beaucoup avec les jeunes. Là, j'étais 25 ans prof à Stan, et puis, pas parce que c'était Stanislas, c'est pas l'école comme telle, mais vous savez, aujourd'hui, puis j'étais 10 ans conseiller d'orientation à Stanislas et prof en même temps, et puis... Il y a des jeunes qui m'arrivaient, il y en avait beaucoup qui me disaient, moi ce que je veux c'est faire du cash. Et puis il y en a qui allaient en médecine parce que leurs parents leur avaient promis une camionnette.
Alors ça remet tout en question la notion de valeur.
Oui, tout à fait. Et je pense, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais appelé mon cours réflexion morale, parce que l'agir moral, c'est justement d'opérer un discernement pour faire justement des choix qui vont aller en fonction des valeurs que nous avons. Mais il faut les découvrir, ces valeurs-là. Il faut savoir quelles sont ces valeurs-là. J'ai déjà entendu un père dire à ses enfants, tu n'es rien sans argent. C'est une leçon de vie, ça. Mais c'est toute une leçon qui limite aussi la vie. Tu n'es rien si tu n'as pas d'argent. Mais c'est mais aujourd'hui, c'est ça.
Mais même le discours officiel est un discours essentiellement économique.
Ah oui, tout est subordonné aujourd'hui à l'économie. Et puis,
quel que soit le sujet qu'on aborde, on le ramène toujours à une valeur économique.
Oui, et puis on posait la question il n'y a pas tellement longtemps là, sur la dépression au Québec, et il y avait tellement de 36% des Canadiens qui prennent des médicaments contre les antidépresseurs sont au Québec. 9 millions de prescriptions d'antidépresseurs, 13 millions, pardon, de prescriptions d'antidépresseurs au Québec. Et puis 6% de ces gens-là sont des personnes âgées. C'est beaucoup, ça. Et y a un malaise actuellement au Québec avec le vieillissement. Il y a un malaise parce que il semble y avoir rien. Il n'y a pas de projet. Où est-ce qu'on s'en va? Et il y a aussi, je pense, un entraînement vers la victimisation et une forme de dépendance. On finit par dépendre de tout et on attend tout des sources providentielles. Et donc, à ce moment-là, les gens sont pas heureux et déprimés.
On aurait intérêt à revenir à l'essentiel, au cœur, dirait Claude Léveillé.
Oui.
Cette chanson qui n'est pas très jeune, mais qui a encore toute sa beauté.
On ne voit pas les cœurs, ils sont trop bien cachés par les amours blessés, par les mille contraintes. Et l'éternelle plainte des amants délaissés par l'amour fatigué. On ne voit pas les cœurs, on voudrait voir les cœurs et leurs profonds secrets et leurs plus doux attraits. Écrire leur histoire, les mettre en nos mémoires, comme chansons d'amour qu'on retient pour toujours. On voudrait voir les cœurs, si on voyait les cœurs, ces objets fabuleux.
Faubert, on parle de cœur, on parle de valeur. Est-ce que ce sont des choses qui ont encore un sens aujourd'hui quand il est question de parler de cœur à cœur, de se regarder dans les yeux, de pouvoir aborder la vie autrement que par le volet économique? Est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui?
Oui, vous savez, ça dépend de l'expérience qu'on vit. En rencontrant quelqu'un, en ayant un moment un instant de communion avec une personne, en étant conscient de cet instant de communion avec cette personne-là, un moment doux, un moment de bonté, un moment de partage, un moment de générosité, ça existe encore. Et c'est au gré du temps, justement, qu'on crée un fondement, une fondation de valeurs, comme on construit une maison sur une bonne base, une bonne fondation. Eh bien, la vie, c'est une maison, c'est une métaphore, mais il faut que nous puissions d'abord à découvrir ces valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a une dictature médiatique qui fait en sorte que l'uniformisation des valeurs, parce que même si c'est économique, c'est quand même une valeur. Et je pense que ce qu'on devrait dire aux gens, c'est que si vous pouvez avoir une valeur qui est l'économie, ben c'est que vous pouvez aussi avoir d'autres valeurs. Mais si on ne présente pas, c'est Saint-Paul qui disait, si on n'enseigne pas, si on n'annonce pas, comment est-ce que les gens peuvent savoir que ça existe, les autres valeurs? Alors, c'est pas quelque chose qui s'enseigne toujours ni à la maison, ni à l'école, et on met de côté, moi je me souviens quand j'étais au secondaire, j'allais justement, j'ai fait mes études dans une école anglophone où les directeurs et les professeurs étaient pratiquement tous formés chez les jésuites, et puis on avait à chaque mois des activités de, on appelle ça aujourd'hui du bénévolat, mais je dirais de contact avec l'altérité, de contact avec des gens différents de nous, qui pouvaient être moins fortunés, qui pouvaient vivre dans des endroits qui étaient insalubres, des endroits où finalement on voyait qu'il y avait de la peine et de la misère.
Un instant de présence véritable.
Et on allait là et on allait en groupe, on était plusieurs élèves avec des professeurs. Donc c'est les professeurs là ils étaient pas en train de nous dire voici un cours sur des valeurs. Mais on vivait ces valeurs-là et ça entrait par la peau.
Alors Pierre, je vais vous inviter à écouter une chanson de Claude Dubois qui n'est pas très connue, qui n'est pas facile non plus, qui a pour titre « La vie me tue ». Et je vous poserai une question particulièrement sur ces vies qui sont parfois difficiles pour certaines personnes.
La vie me tue, j'ai peine à comprendre ma peine. Je me suis tue, il fallait crier à tue-tête. Je ne m'appartenais plus, comment annoncer ma peine.
Pierre Faubert est avec nous. Pierre, cette chanson où on raconte « La vie me tue, j'ai peine à comprendre ma peine ». Je me suis tu, il fallait crier à tue-tête blessé, ne peux-tu un peu m'aider? Mm-hmm. Vous veniez de parler de présence, d'altérité, etc. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas ça qui fait que parfois il y a des gens qui n'en peuvent plus?
Moi, ça me fait beaucoup penser aussi à la chanson de Dédé Fortin. Où dans le fond il crie de l'aide qui est drogué et puis qui a besoin. J'ai déjà eu des appels de personnes qui étaient tellement souffrantes qui voulaient absolument se suicider, mais vraiment qui voulaient se suicider. J'ai eu devant moi quelqu'un qui a vu j'ai une grosse roche ronde dans mon bureau, puis il me dit si vous le voulez, je vais prendre cette roche et je vais me tuer devant vous. Mais ça j'en revenais pas. J'ai dit, non, c'est pas possible. Finalement...
Et qu'est-ce qu'on fait quand
Vous savez, je pense que être psychologue... et si quelqu'un se sent assez accueilli pour pouvoir dire une chose pareille... c'est que quelque part le psychologue ou la psychologue ouvre une porte à cette personne-là. C'est l'accueil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il reste que il faut accueillir, il faut savoir accueillir le désir de mourir de quelqu'un pour que cette personne sente qu'elle a au moins été entendue. Et que finalement, comme quelqu'un m'avait déjà dit aussi à la fin d'une thérapie, elle m'avait dit, cette personne, vous savez tout de moi maintenant, je peux partir en paix. Vous êtes mon témoin. Et elle est partie. Et je sais qu'elle a bien réussi maintenant sa vie. Mais être psychologue, c'est pas d'avoir des solutions. Les solutions sont... C'est pas moi qui ai les solutions. Mais c'est d'avoir la possibilité d'ouvrir, on revient toujours à ces images de la maïeutique de Socrate, c'est-à-dire d'engendrer, de faire en sorte qu'une personne puisse naître à elle-même. Mais c'est important ça, parce que s'il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne qui va accueillir l'enfant, il n'y a personne qui va accueillir le bébé. Et on est tous un peu bébés, quelque part, on est des bébés. Et sur certains points, on a besoin d'être accueillis et pris pour que nous puissions enfin s'abandonner et sentir que je peux me laisser aller parce qu'il y a quelqu'un qui va me tenir.
On a besoin d'un ami.
Un ami, oui.
Jacques Brel a écrit cette chanson magnifique alors qu'il savait qu'il allait mourir, mm-hmm. voir un ami pleurer. Mm. Chanson profonde que celle de Brel, voir un ami pleurer. Mm. Y a-t-il quelque chose de plus triste que de ne pas pouvoir secourir quelqu'un que l'on aime?
Oui, c'est vrai, absolument. J'avoue, Armand, que je me sens extrêmement dépourvu, dépouillé, impuissant devant la personne qui pleure. Parce que c'est pas juste un geste physique qui va aider la personne. Moi, en tant que psychologue, je n'embrasse pas les gens. Quand quelqu'un pleure...
Il y a une distanciation qui est importante.
Oui, mais il y a plus de communion dans la distance que de contact, que dans le contact physique. En tout cas, pour moi, en thérapie. Et je pense que les gens le sentent très bien, ça. Ils se sentent très respectés aussi parce que une personne, à ce moment-là, est très vulnérable. Et ce qu'il faut pour cette personne-là, c'est que je ne parte pas à courir et de m'en aller. Ces gens-là ont tellement peur d'être abandonnés. Et de rester là, en silence, humblement, mais d'être dans la communion avec la personne qui pleure, c'est pas rien faire. C'est de faire le maximum. C'est pas en essayant non plus de parler pour remplir un vide et puis d'apaiser sa propre angoisse. Parce que je me sens angoissé, moi, quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait de la peine. Et j'aimerais ça pouvoir enlever sa souffrance à cette personne-là. Mais je peux pas. Alors donc, je dois accepter ça. Mais je suis dans le temps. Je me souviens d'une personne... Ça fait très longtemps de ça, et donc on peut pas savoir c'est qui, alors je peux en parler, mais cette personne-là, elle est descendue jusqu'au fond de son enfer. Elle était devant moi dans une position fœtale, je vous le dis, et j'ai juste été là. Et après un temps, ça a duré longtemps, la personne est comme ressortie de sa position fœtale. Et elle m'a remercié et a dit, là, maintenant, j'ai touché le fond. Et elle a dit, vous m'avez accompagné jusqu'au fond. Je l'ai accompagné. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire. J'étais juste là. Et évidemment, après, elle est partie.
Ce que vous nous dites, c'est que le silence peut être aussi instant de plénitude.
Oui.
Vous avez probablement vu le film Cinéma Paradiso.
Oui.
Il y a un moment intense où on ne parle pas beaucoup lorsqu'il assiste aux funérailles de ce cinématographe.
Oui, oui.
Et ne serait-ce que le regard silencieux des amis d'enfance qu'il revoit peut dire beaucoup. Alors, on va se rappeler ce beau moment pour terminer ce premier bloc avec la musique d'Ennio Morricone.